Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, Pascal Sim pour ce magazine hebdomadaire d'Escale. Cette semaine, Escale vous propose une rencontre avec Diego Zorrilla. Depuis 2 ans et demi, ce fonctionnaire international est le coordinateur résident des Nations Unies en Tunisie. Le pays d'Afrique du Nord a connu il y a 9 ans une révolution démocratique. Pour ONU Info, Diego Zorrilla revient sur les espoirs et les défis que rencontrent les Tunisiens alors que leur pays œuvre à la réalisation des objectifs de développement durable. Tunisie, le chemin vers le développement durable, c'est notre magazine Escale de la semaine. Diego Zorrilla a pris ses fonctions de coordinateur résident des Nations Unies en Tunisie en janvier 2017, après avoir occupé les mêmes fonctions pendant plus de 6 ans en Équateur. Mais qu'est-ce qu'un coordinateur résident des Nations Unies ? À quoi sert-il ? Diego Zorrilla nous explique sa fonction.
Le coordinateur résident est le représentant du secrétaire général dans tous les pays où il y a une présence des Nations Unies, il y a un coordinateur résident. Et ma fonction est d'aider à ce que le système des Nations Unies opère de façon cohérente et réponde au mieux aux besoins de développement des pays. Vous savez, les Nations Unies sont un système, comme vous savez bien, compliqué. On a plus de 40 entités des Nations Unies qui ont vocation à avoir des présences dans les différents pays, 40 différentes agences, fonds, programmes, etc. Et pour mettre tout ceci en musique, puis pour coordonner l'action de toutes ces entités qui partagent l'identité des Nations Unies, a été créée la figure du coordonnateur résident avec cette fonction de, justement de représentant du secrétaire général et de coordonnateur des agences.
Diego Zorrilla était au siège de l'ONU à New York en juillet pour participer au forum de haut niveau sur le développement durable. À cette occasion, il a accompagné la délégation du gouvernement tunisien qui a présenté son travail dans la réalisation des ODD, les 17 objectifs de développement durable. Il explique pourquoi un tel forum est indispensable.
Le forum de haut niveau sur le développement durable, c'est le rendez-vous annuel qui passe en revue l'état d'avancement dans les objectifs de développement durable. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est un agenda de développement, c'est un des engagements pris par tous les pays du monde en 2015 pour dire, voilà, si nous voulons qu'un développement soutenable pour l'humanité, si nous pouvons pouvoir éliminer la pauvreté extrême et nous pouvons pouvoir combattre le changement climatique, nous devons nous mettre d'accord sur une série d'objectifs. Il y a 17 objectifs avec 169 cibles plus spécifiques qui sont des engagements pris par tous les pays du monde, mais pas seulement par le gouvernement, aussi par la population à travers leur participation dans un processus société civile, etc., qui sont mis d'accord pour ces objectifs. Une fois par année, les Nations Unies revoient ça, les États membres se mettent d'accord pour revoir le progrès qui est fait pour l'atteinte de ces objectifs, car il nous reste plus maintenant que 11 ans pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable.
Les objectifs de développement durable sont en eux-mêmes un projet vaste et difficile à expliquer. Quand nous avions les objectifs du millénaire, c'était 8 objectifs très clairs. C'est l'éducation, la santé, des choses précises. Aujourd'hui, c'est tout un programme de développement qui s'adresse à tous les domaines et c'est plus difficile à expliquer d'une façon convenable à tout le monde.
Ces 17 ODD ne sont pas toujours faciles à saisir, comme vient de le dire le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors de sa visite en Tunisie en avril dernier. Où en est la Tunisie aujourd'hui dans la réalisation de ses objectifs ? Diego Zorrilla revient sur le chemin parcouru par le pays d'Afrique du Nord.
Il faut distinguer entre des objectifs de processus, c'est-à-dire d'appropriation et de comment est-ce que ces objectifs sont reflétés dans la planification, et puis les réalisations concrètes par rapport à l'avancée des objectifs. Alors pour ce qui est pour la première partie, la Tunisie, comme beaucoup d'autres pays, a établi un mécanisme institutionnel pour lui permettre de faire le suivi sur les objectifs et puis pour voir comment est-ce que ces objectifs sont reflétés dans la planification nationale. Il y a un plan national de développement qui est un plan quinquennal que la Tunisie adopte. D'ailleurs, lorsque cette année il y aura des élections, et d'après les élections, il y aura un nouveau plan quinquennal de développement qui doit être adopté. Et ce plan quinquennal reflète déjà un nombre des objectifs et des cibles spécifiques des objectifs de développement durable. À part ça, il y a après, qu'est-ce qui est effectivement en train d'être fait dans les différents domaines que des objectifs? Parce que les objectifs, finalement, traitent chacun des objectifs, traitent de secteurs, même si tout, on dit que l'agenda est très interlié, interrelationnel. C'est la caractéristique de cet agenda, c'est que, bien qu'il y ait des objectifs par secteur, tous les secteurs sont interdépendants. Et il faut voir maintenant quelle est l'avancée qui est faite en matière des 5 grandes dimensions de l'agenda. qui est celle de la protection des personnes, la protection sociale, celle du développement économique, mais un développement économique durable, celle de la protection de l'environnement, celle de la construction d'institutions pour nous permettre d'avoir des sociétés en paix et justice, et celle des partenariats autour de cet grand agenda de développement.
Le renforcement des institutions est l'un des 17 objectifs de développement durable. L'année dernière, un expert des droits de l'homme des Nations Unies a constaté des retards dans la mise en place de certaines institutions en Tunisie, telles que la Cour constitutionnelle ou la Cour des comptes. Diego Zorrilla souligne que le gouvernement tunisien tient compte des observations faites par les experts, mais tient à les remettre dans le contexte.
Le gouvernement certainement prend en compte toutes les recommandations qui lui sont émises. Moi, je voudrais mettre en contexte ces remarques parce que la Tunisie a réalisé une transition d'une façon extrêmement rapide pour ce qui est du cadre institutionnel et du cadre législatif. La Tunisie, qui a changé de régime politique en janvier 2011, je le rappelle, a négocié une constitution qui a été adoptée en 2014 et a tenu des nouvelles élections en 2014. Et depuis 2014, nous sommes maintenant dans une législature qui va maintenant prendre sa fin en octobre 2019, où nous aurons des nouvelles élections. Cette transition d'un système autoritaire à un système démocratique s'est faite de façon extrêmement rapide. Et c'est vrai que certaines institutions manquent encore, c'est-à-dire que la Constitution a prévu un cadre institutionnel qui est en train d'être mis en place progressivement. La Cour constitutionnelle, notamment, n'a pas été encore constituée. Les membres de la Cour constitutionnelle doivent être nommés d'un côté par le Parlement, d'un autre côté par le président de la République et d'un autre côté par le conseiller de la magistrature. Et le Parlement ne s'est pas encore mis d'accord sur l'identité de ces personnes-là. Et c'est juste de constater ce retard, mais c'est aussi juste de constater la rapidité de cette transformation institutionnelle qui a été vécue en Tunisie. Par contre, là où les Tunisiens, les Tunisiennes sentent qu'il y a eu plus de retard, c'est par rapport à des transformations économiques et sociales qui étaient à la base des demandes qui ont généré la révolution et puis qui restent une grande aspiration de la Tunisie. C'est cette transformation économique qui doit permettre à la Tunisie de récupérer des taux de croissance soutenus plus élevés et qui lui permettra de créer les emplois pour permettre aux jeunes d'avoir des emplois, parce que c'est un des grands problèmes, une des grandes difficultés de la Tunisie actuellement, c'est le désemploi et particulièrement le désemploi des jeunes.
La Tunisie est un pays jeune, 57% de la population a moins de 35 ans. Une jeunesse éduquée, formée, mais qui ne dispose pas d'opportunités à la hauteur de ses qualifications. 85% des chômeurs du pays ont entre 15 et 35 ans. Une jeunesse qui se sent laissée pour compte, comme l'a rappelé un étudiant tunisien lors d'un débat avec le secrétaire général de l'ONU à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.
On parle souvent aux Nations Unies d'une campagne qui s'appelle « No one left behind ». Bien, monsieur le secrétaire général, permettez-moi de vous dire qu'en Tunisie, il y a beaucoup de jeunes qui sont « left behind ». Et vous savez, monsieur le secrétaire général, l'importance de soutenir la jeunesse de ce genre de pays, dans ce genre de situation, pour éviter les retours en arrière. Aujourd'hui, nous le voyons à l'échelle internationale. Vous avez des gens qui remettent en doute l'existence même des Nations Unies, l'existence et l'importance du multilatéralisme. Investir aujourd'hui, monsieur le secrétaire général, dans la jeunesse tunisienne, c'est investir dans des leaders, dans des décideurs qui demain seront les ambassadeurs du multilatéralisme. Voilà pourquoi nous considérons que le rôle des Nations Unies, particulièrement en Tunisie, n'est pas simplement d'organiser des réunions, n'est-ce pas, en conclave dans certains hôtels à Tunis, mais d'aller sur le terrain, dans les régions de l'intérieur, là où la jeunesse la plus touchée par l'extrémisme, par la radicalisation est présente. Et nous sommes ici à la disposition du système des Nations Unies pour soutenir et pour participer à ce projet. Voilà pourquoi je vous lance, monsieur le secrétaire général, un appel du fond du cœur, afin que vous réaffirmiez... afin que vous réaffirmiez votre soutien à la jeunesse tunisienne et qu'à travers ce soutien, nous puissions redéfinir les conditions d'un partenariat avec le système des Nations Unies en Tunisie plus sérieux.
Les difficultés rencontrées par les jeunes Tunisiens, telles que nous venons de l'entendre dans les paroles de cet étudiant, Diego Zorrilla les reconnaît. Le coordinateur résident reste toutefois optimiste sur l'idée que la consolidation de la démocratie en Tunisie puisse offrir sur le long terme un avenir meilleur aux jeunes.
Alors, je pense que ce que le secrétaire général, parce que j'étais avec lui, c'était à la faculté des sciences juridiques et politiques de Tunis, lorsqu'il a parlé aux jeunes, il a voulu ramener les grands défis globaux, le changement climatique, la paix et la sécurité, pour demander aux jeunes de s'engager. Et je pense que cet engagement est demandé de tous les jeunes du monde, parce que l'avenir leur appartient, bien évidemment, et c'est eux qui vont vivre avec les conséquences de réussir ou de ne pas réussir cet agenda de 2030 dont je parlais avant, sur lequel il y a un grand sens d'urgence. Ceci étant, il est clair aussi que les jeunes sont confrontés à des difficultés à un niveau personnel en Tunisie et ailleurs d'ailleurs, parce que la situation en Tunisie n'est pas pire que celle des autres pays de la région et certainement mieux que celle de beaucoup des pays du continent africain. Donc ces aspirations personnelles, des fois frustrées, font évidemment que le niveau d'engagement pour ces causes civiques au niveau global soit peut-être amoindri, parce que la première préoccupation est celle de la satisfaction des besoins personnels. Ceci étant dit, la jeunesse tunisienne est une jeunesse extrêmement ambitieuse, extrêmement bien formée. L'éducation a été un des éléments, un des piliers importants de la construction de l'État démocratique en Tunisie et qui a permis en plus aux jeunes à aspirer à des niveaux de formation qui les rendent du coup aussi ambitieux par rapport aux postes qu'ils veulent pouvoir, aux travaux auxquels ils peuvent pouvoir aspirer et qui les rendent parfois susceptibles de vouloir émigrer pour pouvoir trouver du travail en Europe.
En 2019, peut-on dire que la Tunisie est sur la bonne voie du développement durable ? Diego Zorrilla se dit plutôt confiant, même s'il reconnaît que les inégalités sont toujours présentes et continuent de s'accroître.
Je suis confiant sur la volonté de le faire, mais pas seulement pour la Tunisie, au niveau global. Je pense que nous voyons que nous avons des défis énormes et certains des indicateurs ne sont pas en train d'aller dans la bonne direction. Les inégalités, par exemple, ne sont pas en train de se réduire, elles sont en train de s'accroître au niveau global et continuent à s'accroître. J'écoutais une présentation par la directrice exécutive de Oxfam qui disait que la richesse de ces 26 milliardaires, des 26 premiers, équivaut à la richesse de la moitié de la population mondiale. Donc les inégalités ne sont pas en train de se réduire. La réduction du changement climatique va bien au-delà de nos attentes. Donc je pense que ce n'est pas un constat sur la capacité de la Tunisie, mais réellement un constat global sur la lenteur que les transformations que nous devons mener sont en train d'avoir et des défis que ceci représente pour l'humanité. Donc je pense qu'il y a un grand sens d'urgence que nous devrions avoir tous. Et le secrétaire général a convoqué en septembre un sommet sur les ODD, justement pour insuffler ce sens d'urgence à l'humanité sur cet agenda qui est un agenda global et universel.
Alors que les attentes de la population tunisienne sont extrêmement fortes, Diego Zorrilla rappelle que la Tunisie et le reste du monde doivent être patients à l'égard du processus de transition en cours dans le pays.
Au niveau international, il y a une vision très positive sur cette transition démocratique et puis sur ce qu'elle a réussi à avoir, alors qu'en Tunisie, il y a une vision très autocritique par rapport à tout ce qui n'a pas encore été réalisé, notamment en termes de développement économique et développement social, qui a un impact sur le moral de la population et puis sur le sens d'orgueil et d'autosatisfaction de la population tunisienne et qui a des bases très très réelles, hein, cette insatisfaction. Le pouvoir d'achat a diminué, la qualité des services publics, de certains services publics n'est pas à la hauteur de ce que les Tunisiens attendent, etc. Mais je pense qu'il est très très important de reconnaître combien tout ceci est récent encore et la quantité d'appui qu'un pays comme la Tunisie doit continuer à avoir. Lorsque le secrétaire général est venu en Tunisie au mois d'avril, il faisait des comparaisons avec la transition en Portugal, la transition en Espagne. Moi-même, je suis espagnol, je me souviens comment peu d'années après cette transition démocratique, on a eu un essai de coup d'État en 1981. Donc il faut reconnaître la fragilité et la difficulté de ces processus de transition et voir comment des pays européens comme l'Espagne ou le Portugal avaient la perspective d'une entrée dans l'Union européenne, avaient des aides lorsqu'ils sont entrés dans l'Union européenne très 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 substantielles. Et tout ceci est un rappel donc que la Tunisie est en train de réaliser en peu de temps, ce que d'autres pays ont mis beaucoup plus de temps à réaliser et avec comparativement beaucoup moins d'appui. Donc la Tunisie mérite encore tout le soutien dont elle a besoin pour les prochains mois.
Et c'est sur cet appel de Diego Zorrilla à appuyer la transition de la Tunisie que se termine cette édition d'Escale. La Tunisie sur la voie du développement durable, un magazine d'ONU Info présenté par Pascal Sim, avec à la production Carlos Macias, une musique de Mohamed Najem. Merci pour votre écoute et à très bientôt.